Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle. Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et voilà, on se retrouve en direct. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Anne-Marie a fait tomber le gilet.
C'est pour vous dire qu'il fait beau à Mende. Non, c'est vrai qu'il fait chaud dans le studio. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Bonjour les filles. Alors, au programme de ce nouveau numéro d'Actuel et lui, de quoi allez-vous nous parler ? On va commencer avec Anne-Marie.
Alors, je vais vous parler de Malala à l'occasion de la sortie donc, de son autobiographie. Toi, Guillaume, tu vas nous parler ?
Alors moi, je vais vous parler de presse masculine.
Ah, ça change un petit peu ?
Voilà, ça va changer un petit peu. Et j'ai eu l'occasion de la lire dans les transports, ces jours-ci.
D'accord. Et alors, toi, Aurélie, tu as écouté...
Moi, je vais vous parler de musique, effectivement.
Ah. Et donc, tu as écouté cette musique dans le train aussi ?
Non, pas dans le train, non.
Bien, on va juste se dire que hop, 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 et puis...
C'est parti.
On fait hop, 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 et puis voilà...
Allez, hop, 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 la chronique d'Anne-Marie, donc sur Malala.
Vous n'êtes pas sympa.
On l'adore, ce petit bout-là.
Oui, donc je vais vous parler de Malala. Rares sont les journées durant lesquelles on ne parle pas de Malala. Ce joli prénom est devenu en quelques mois le synonyme du mot combat. Alors, combat pour l'éducation des jeunes filles, hein, combat pour la libération de la parole et combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Malala, du haut de ses 16 ans seulement, est passée à un cheveu du prix Nobel de la paix il y a quelques jours de cela. Mais elle est aussi passée à un cheveu de la mort l'an dernier, lors d'un attentat qui la visait au Pakistan, son pays natal. Alors la jeune femme évoque sa vie, ses rêves et sa passion pour les mots dans un livre autobiographique poignant intitulé « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans » aux éditions Calmant Lévy.
Alors pourquoi avoir eu envie de lire ce livre ?
Alors, comment une jeune fille de 13 ans décide-t-elle de brandir des livres face à des hommes qui brandissent des armes ? Comment une gamine, fille d'un directeur d'école et d'une mère illettrée, devient-elle le symbole international de la lutte pour l'éducation ? J'ai eu envie de lire son témoignage pour connaître justement ce parcours hors du commun. Et j'ai été touchée par cette Malala pleine d'espoir à la maturité d'un vieux sage dans un corps de petite fille, touchée aussi par sa délicate fragilité et sa force habillée de modestie.
Tu peux nous en parler un petit peu, ce livre, nous raconter sa vie finalement.
Alors résumer ce livre, c'est résumer la vie de cette gamine et pourtant on se dit qu'il faudrait bien plus que quelques minutes d'antenne ou que quelques feuilles d'un livre pour évoquer son combat et sa force incroyable. Donc dans ce livre, Malala Yousafzai revient sur sa naissance dans la région du Swat, au Pakistan donc. Sauf que dans cette partie du monde, la naissance d'une fille n'est jamais jour de fête. Alors je la cite. J'étais une fille dans un pays où on tire au fusil pour fêter la naissance d'un fils et où les filles sont cachées derrière un rideau, leur rôle se résumant à préparer la nourriture et à produire des enfants. Fin de citation.
Ça me parle de produire des enfants.
Et pourtant, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Malala est née le 12 juillet 1997 sous une bonne étoile. Et là, c'est pas une plaisanterie. Son père érudit, nommé un temps conseiller spécial de l'ONU pour l'éducation, l'accueille avec joie. Fidèle son apprenti du bonheur et sa plus grande disciple d'un concept qui nous paraît évident, et pourtant, c'est le droit à l'éducation. Malala aime l'école, veut toujours être la première de sa classe. Malala est convaincue d'une chose, c'est grâce à l'enseignement qu'elle va réussir à s'émanciper et à prendre du recul par rapport au carcan imposé par sa religion, du moins les règles imposées par les talibans qui font une lecture plutôt très personnelle du Coran. Malala a très vite compris que seule une instruction savante permettait aux jeunes de se libérer du fardeau des traditions. Malala donc est intelligente, vive et débute très jeune des concours d'éloquence comme son paternel. Elle prend de l'assurance jusqu'au jour où elle rentre en contact avec un correspondant de la BBC. Grâce à lui, en fait, elle va le tenir de façon anonyme un blog sur le site ourdou de la BBC et évoque son quotidien, l'école, sa soif d'apprendre toujours et encore, ses amis, bref, sa vie. Ce site est de plus en plus consulté. Malala commence alors à donner des interviews à visage découvert dans le monde entier et devient de fait une cible privilégiée pour les talibans qui prônent l'enfermement et l'avilissement des femmes.
Et donc Malala a failli mourir.
Oui, alors la jeune femme raconte le jour où tout a basculé dans le prologue puis à la fin de son livre. Alors, je plante le décor. Hein, le 9 octobre 2012, alors qu'elle se trouve dans un bus qui la ramène chez elle en compagnie de ses amis, elle est victime d'un attentat. Donc là, je vais citer une partie de son prologue. Alors, l'homme portait une casquette et s'était recouvert le visage d'un mouchoir comme s'il avait la grippe. On aurait dit un étudiant d'université. Il se hissa sur le haillon et se pencha à l'intérieur. « Qui est Malala ?» demanda-t-il. Personne ne répondit, mais plusieurs filles me regardèrent. J'étais la seule à ne pas avoir le visage voilé. Il leva alors un pistolet noir. Certaines des filles poussèrent des cris. Moniba, donc c'est son amie, me dira un jour que j'avais serré sa main. D'après mes amis, il tira 3 coups successifs. La première balle entra dans mon orbite gauche et se logea dans mon épaule gauche. Je m'effondrai sur Moniba, du sang jaillissait de mon oreille gauche, si bien que les 2 balles suivantes atteignirent les filles assises près de moi. Une frappa Shazia à la main gauche, la 3e traversa son épaule gauche et blessa le bras droit de Keina Triaz. Mes amis m'ont raconté que le tireur avait la main qui tremblait. Le temps que nous arrivions à l'hôpital, mes longs cheveux et les genoux de Moniba se couvrirent de sang. Qui est Malala ? C'est moi. Et ce livre raconte mon histoire.
Waouh ! Et heureusement, elle s'en est sortie quand même de cet attentat.
Oui, donc elle s'en est sortie et elle résume ce qu'elle a subi dans une interview très poignante aussi donnée au magazine Elle, datée du 11 octobre. Alors, donc je vais faire une citation. Donc là, la journaliste lui demande « Vous n'avez pas encore parlé de ce que vous avez dû subir après l'attentat, de votre combat contre la mort, comment l'avez-vous vécu ?» Donc Malala répond. J'ai subi tellement d'opérations. 3 au Pakistan, juste après que l'on a tenté de m'abattre. Une partie de ma boîte crânienne a dû être découpée pour laisser de l'espace à mon cerveau gonflé. Et ce morceau a été placé à l'intérieur de mon estomac pour le protéger. On a mis un tube dans mon cou pour que je puisse respirer et on m'a enlevé la balle logée dans mon épaule. Puis j'ai été évacuée vers Birmingham. La moitié de mon visage était paralysée. Je ne pouvais plus cligner de l'œil ou sourire. Le nerf était sectionné. Lors d'une autre opération très complexe, on l'a réparée. En général, on récupère 50% de l'activité nerveuse. Grâce à cette opération, j'en ai récupéré 86%. Et donc là, la journaliste lui répond « Mais voilà, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Ce à quoi Malala dit « Très bien. » Donc c'est ça qui est fou, hein, mais bon. « Très bien. Et même mieux que je ne le pensais. Ma voix était complètement distordue. Je ne pouvais plus marcher. Mon oreille était si endommagée qu'il a fallu la remplacer par un implant. » Et une plaque de titane referme mon crâne. Je continue la rééducation pour la partie gauche de mon visage, mais je vais bien. Je remercie chaque jour Dieu pour ma guérison.
Alors finalement, c'est quand même cet attentat qui a permis de braquer tous les projecteurs sur elle.
Oui, alors effectivement, cette jeune femme est devenue plus qu'un symbole. Depuis le 9 octobre 2012, Malala incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour des millions de gamines dans le monde. Alors je dis bien des millions. Dans Elle, d'ailleurs, la journaliste a fait un petit encadré sur les filles au banc de l'école. Et on y apprend que parmi les 125 millions d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école dans le monde, 70% sont des filles. Donc cette victoire sur la mort aurait pu être honorée par le prix Nobel de la paix, comme on avait parlé dernièrement avec Aurélie d'ailleurs. Finalement, le jury de la fondation Nobel lui préféra il y a quelques jours de cela l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Malala n'en tiendra pas rigueur. Elle a même félicité cette organisation. Je la cite. L'OIAC est une organisation importante qui travaille sur le terrain pour débarrasser le monde des armes chimiques. Je voudrais les féliciter pour cette reconnaissance internationale bien méritée. Donc voilà, elle est formidable et en plus, elle a cette modestie de dire ben, en gros, vous méritez plus ce prix Nobel que moi, quoi, quelque part.
Effectivement, elle est impressionnante, cette jeune fille, mais elle a quand même, même si elle n'a pas eu le prix Nobel, remporté d'autres prix.
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, beaucoup moins
prestigieux.
Prestigieux,
c'est ou richement moins... doté, on le sait maintenant.
Aussi, exact.
Ça aurait pu servir.
Et peut-être aussi moins médiatique. Mais effectivement, donc en 2009, elle a été élue présidente de l'Assemblée des enfants du district du Swat, organisée par l'UNICEF, donc c'est l'Association humanitaire pour la survie et la protection des enfants du monde. Donc grâce à ses prises de position et à ses actions, le 19 décembre 2011, elle reçoit le premier prix national de la jeunesse pour la paix du gouvernement pakistanais, des mains du premier ministre Yusuf Raza Jinali. Cette distinction est par la suite renommée prix Malala. Alors en décembre 2012, Malala Yousafzai reçoit le prix Simone de Beauvoir aussi pour la liberté des femmes. Puis le 10 octobre 2013, elle reçoit le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit donc du Parlement européen. Alors avec l'argent gagné grâce à ces récompenses, bon même si évidemment c'est moins d'argent, tu l'as dit, que grâce au prix Nobel, mais elle en a quand même gagné pas mal. Malala a fondé une association pour aider les enfants qui travaillent donc pour survivre. Alors en ce moment, elle permet à 14 filles de sa région de s'instruire. La fondation de Malala, en contrepartie, donne une indemnité compensatoire mensuelle aux parents pour qu'ils les autorisent à aller à l'école. Elle explique d'ailleurs très bien ce projet. Donc j'ai cette idée depuis très longtemps. Un jour, sur le bord de la route d'Islamabad, j'ai rencontré une fillette qui vendait des oranges. Elle faisait semblant d'écrire avec un bâtonnet. J'ai décidé que je me battrais pour ces filles, pour qu'elles ne vendent pas des oranges, mais apprennent d'où viennent les oranges, les arbres, les montagnes. Je souhaite que tous les enfants aient la chance que j'ai eue.
Bien, mais...
C'est un témoignage qui nous laisse sans voix.
Oui, c'est...
Non, mais je conseille effectivement vraiment voilà, à nos auditeurs et auditrices d'acheter ce livre, de le lire. C'est intéressant et puis c'est aussi... voilà, donc Malala raconte son histoire, mais ce télescope aussi l'histoire du Pakistan. Et forcément, oui. L'un va avec l'autre. Et c'est, voilà, c'est intéressant de voir aussi comment les Pakistanais ont vécu les attentats du 11 septembre, puisque tout est lié. Comment, grâce à l'argent des Américains, ils ont réussi finalement aussi à se radicaliser, alors que c'était l'argent qui servait pour chercher Ben Laden. Et en fait, les Pakistanais ont pris cet argent pour permettre aux talibans de se radicaliser, de se former.
Oui. La formation, finalement, c'est le nerf de la guerre. On voit que même au milieu et dans des conditions vraiment difficiles, le fait qu'elle ait pu... là, elle avait la chance de naître dans une famille où son père était directeur d'école, donc déjà sensibilisée à ça. Mm-hmm. Mais finalement, tout ce qu'elle a appris lui ont donné les armes aussi pour intellectuels, pour pouvoir combattre et aujourd'hui mener ce combat et être un peu un porte-drapeau, même si...
Exactement. Alors, elle le regrette. Aujourd'hui, elle n'a plus le droit de remettre les pieds au Pakistan. Enfin, plus le droit. Oui. Moi, elle se dit, si je reviens dans mon pays, je vais me faire tuer. Et cette fois-ci, peut-être qu'ils réussiront. Donc, du coup, elle habite en Angleterre.
Oui, elle a rencontré la reine il y a très peu de temps, qui, justement, l'a félicité pour son combat, justement. Et donc, on rappelle le livre « Moi, Malala » chez Kalman Levy.
Voilà.
Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour illustrer un petit peu ce témoignage de combat? Je crois que ça va être un autre combat que tu nous proposes.
Exactement, Guillaume. Tu as tout compris. Je vous propose d'écouter une femme qui a poursuivi donc un autre combat. C'était celui contre la pauvreté dans son pays, le Cap-Vert, et qui nous a malheureusement quittés en 2011. Césaria Evora nous embrasse dans Besame Mucho.
Bésame, bésame mucho, como se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Y
calme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. ¿Cómo se fue esta noche, la última vez? Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Grand débat dans le studio, on a failli rater la reprise, mais nous revoilà pour cette deuxième partie d'Actuel et lui. Et après donc Malala et ce témoignage, on va passer à un petit peu plus de légèreté. Guillaume revient d'une expérience aux frontières du réel, il a mené pour nous une enquête de terrain vraiment très poussée et il a lu 4 magazines de presse masculine.
Oui, effectivement, expérience, c'est sans doute un peu beaucoup dire, mais...
C'est toi qui l'as dit, hein.
Mais oui, c'est moi qui l'ai dit, mais bon, c'est ce que j'avais écrit.
Donc c'est bien que t'as vécu quelque chose incroyable.
On sait que...
Mais voilà, effectivement, on peut dire que comme c'est pas une lecture régulière pour moi, bah, j'ai mis à profit un déplacement professionnel cette semaine pour lire pas un, pas deux, pas trois, mais bien 4 magazines destinés au public masculin.
Oh là là, quelle aventure.
C'est une aventure... Je n'en suis pas encore remis.
On saura pourquoi tout à l'heure.
Voilà.
C'est très marrant.
Mais donc, deux petits. En fait, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est parce que y a deux petits nouveaux dans la presse masculine. L'un qui sort en octobre son premier numéro, et c'est mon préféré, on y reviendra. Et puis un autre où c'est le numéro 2, et donc j'avais envie en tant que l'homme d'Actuel et lui, hein,
l'expérience,
de voir ce que je pouvais retirer de cette presse en plein développement. Bon, d'habitude c'est Anne-Marie qui traite ces sujets dans Actuel et lui. Mais...
Oui, mais là t'as pas droit, t'as vu, c'est que pour les hommes. Donc voilà, exactement. En même temps, y a des choses que tu ne peux pas voir. Des intérieurs de voitures, des choses comme ça, ouh, des montres.
Donc voilà, alors justement, on va préciser un petit peu ce que j'entends par prête masculine.
Une définition.
Voilà, une définition. Alors, comme vous le savez, quand je suis à la recherche d'une définition, j'ai une source principale qui s'appelle Wikipédia, mais je ne la citerai pas aujourd'hui. Oh. Et donc, Wikipédia nous cite tous les éléments qui peuvent rentrer dans la prête masculine. Alors, la prête pornographique. Donc, il n'y en, ce sera pas ce, que, ce dont je vais vous parler, encore que peut-être pour un, l'un d'entre eux.
Non, mais là, il faut que les auditeurs nous écoutent, donc dis, oui, voilà. si, voilà. Tu vas nous parler de pornographie, voilà. Pornographie.
Je ne parlerai pas non plus de magazines plutôt orientés sport ou santé, mais bon, voilà.
Genre L'Équipe ? Ah non, c'est pas un magazine.
si, il y a un magazine L'Équipe. Ah, bon. Mais,
c'est un quotidien.
Mais non, il y a voilà, Men's Health, un certain nombre de choses comme ça. Et puis c'est pas non plus c'est pas non plus les magazines gays, puisque c'est aussi une catégorie de cette presse masculine. Et bon, j'aurais bien ajouté le magazine têtu, parce que ça aurait été intéressant de comparer un petit peu.
Oui,
mais,
non, qui a voulu comparer les photos, moi.
Voilà. Mais le kiosquier de la gare de Clermont ne l'avait pas.
Le fourbe.
Voilà.
Il les avait déjà tous vendus.
Et voilà.
Où
voilà.
Les garde.
Donc, je vous propose donc de passer en revue 4 magazines. Oui, alors il y a un jeu de mots dans passer en revue, mais tout ça, c'est pas bien
merci
grave.
Merci de me dire. Parce que...
oui, je l'avais écrit aussi. Oui. Hein, donc...
et tu avais consommé quelque chose dans le train, non,
non. J'ai écrit ça hier soir un peu tard. Alors, je commence par le plus ancien, le numéro 69 de GQ, Gentleman's Quarterly. Alors c'est un peu une arnaque parce que quarterly ça veut dire trimestriel et donc alors que c'est un mensuel en France.
Et c'est
donc,
voulu le numéro 69 ou
Ben c'est celui que c'est celui de ce mois-ci hein, donc ouais. Mais on y reviendra justement sur le thème du dossier.
Ah, pour le numéro 69, c'est
et oui, forcément.
C'est normal.
Voilà, et donc le sous-titre c'est masculin, beau et intelligent pour GQ, donc voilà. Alors je vais vous parler aussi, enfin j'ai lu l'Optimum Style, et ce sera le numéro 57, donc le numéro 2 de lui, qui a été lancé en
début octobre,
en grande pompe il y a très peu de temps, et le numéro 1 de Hellman, qui est aussi un tout nouveau donc, magazine.
Bon, alors, ça fait un peu bizarre, Elle pour les hommes.
Oui, c'est ça.
Oui.
Ah oui, mais en même temps, ça marche tellement bien aussi, on est tellement attaché.
Et puis c'est une marque, hein, voilà.
Voilà,
Elle
une marque,
est une marque qui est déclinée et qui, je trouve, justement, est plutôt bien déclinée.
Alors, quelles sont les unes de cette revue de presse que tu nous as faites ?
Alors, on va parler d'abord visuel.
Il va falloir que tu décrives parce que nous, on a la chance d'avoir les images.
Oui. Alors, en une de GQ, c'est l'homme qui voulait tout réussir, le vrai visage de Guillaume Canet. Une photo de Guillaume dans une photo plutôt très classe, un regard ténébreux, ça va avec le
pas très souriant, ouais, il fait pas très souriant, lèvres pincées, il est pas trop à son avantage, moi je trouve.
Ouais, mais classe quand même un peu.
Oui, c'est vrai. C'est la joue regard ténébreux, regarde.
Classe aussi parce qu'il est bien habillé,
voilà,
avec sa cravate tout ça, mais ouais,
bon
pas voilà.
Voilà,
nous on vote moyen, tu vois.
Ouais, moyen. Donc après autre proposition. Pour l'Optimum, c'est mode génération 3.0 Louis Garrel.
Alors là aussi, regard ténébreux.
Photo noir et blanc, photo effectivement. Et blanc. Regard ténébreux, yeux bruns, cheveux bouclés en désordre. Bon, plutôt sexy hein, quand même. Hein, mais non, je sais pas.
Ouais, mais ça fait un peu rétro le col roulé là. C'est bon.
Oui, moi j'aime bien. Mais de là à dire sexy.
Bon, d'accord.
Ouais.
Alors.
Désolé, hein, on fait de notre mieux, mais.
Pour Hellman, c'est Mathias Schoenertz, le nouveau Brando.
Ouais, moi je vote oui pour Mathias, mais bof pour la couverture.
La couverture,
ouais,
elle est vraiment triste.
Elle est pas soignée,
c'est pas classe.
Elle accroche pas trop, effectivement. Mais bon, voilà, sinon, effectivement, pour Brando, belle mèche, top côté.
C'est vrai. C'est
la barbe de 3 jours, des yeux gris-bleu, là, vraiment beau gosse.
Ah,
et
on voit la merde.
Vous l'avez dit. Et puis, on va terminer avec lui.
Et là,
je pense que ça vous plaît moins avec Georgia May, la fille de Mick Jagger, donne satisfaction. Hein, c'est le titre, hein, vous pouvez
oui,
le certifier.
Oui, on le voit.
Alors, je ne sais pas à qui elle donne satisfaction,
Oula, tout tombe d'ailleurs, vous voyez, il en tombe à la renverse devant cette photo. Voilà,
mais,
voilà.
Mais effectivement, elle n'est vêtue que d'une veste ouverte agréablement. Hein,
enfin,
c'est ça,
quoi.
Voilà, c'est-à-dire que.
Voilà, et d'une culotte noire qu'elle s'apprête à baisser. Voilà, donc c'est
chaud chez lui.
C'est chaud chez lui, oui, voilà. J'ai plein de blagues.
Voilà.
Non, mais on sent que ça t'a inspiré voilà, quand même.
Voilà.
Bizarrement, ah, bizarrement tu vois, le petit Paris, un peu moins, mais
lui,
voilà.
ça va.
Ça marche.
Alors après, sur le sommaire, pour le 69 de JQ, bah, forcément un dossier sexe, mensonges et réseaux sociaux. L'art d'être infidèle en restant un chic type.
Ah, un oxymore.
Voilà. Mais aussi un supplément montre, et on y reviendra.
Ah, parce que donc tu es à l'heure, donc tu restes un chic type, même si tu trompes ta femme avec
sa
mère.
Moi, je sais que ce numéro-là, je ne vais pas l'acheter pour mon compagnon.
Non.
L'art d'être infidèle en restant un chic type.
Je lui prêterai si tu veux.
Non, elle veut pas justement.
C'est bon.
Tac.
Non.
Pour l'optimum, l'annonce est aguichante.
Quoi qu'il va plutôt préférer lui, je pense.
Oui, bon, ça suffit, Aurélie. Écoute un peu ce que dit Guillaume.
Oui, pardon. J'essaye de l'aider.
Donc,
je t'en remercie. Il n'y a pas besoin d'aide.
Pour l'optimum, l'annonce est aguichante avec le manuel à l'usage des nouveaux élégants et 50 best-sellers pour changer de vestiaire. Bon, voilà. Lui propose une révélation exclusive, c'est déclaré comme tel, hein, je vous laisse quand même le vérifier, hein, c'est écrit exclusif. Les footballeurs ont une certaine forme d'intelligence. Oui. Voilà.
Et bien ça, on a ce que tu nous en parles. Voilà.
Et puis bah, pour Hellman, entre la page politique avec le titre Manuel Valls, en avoir ou pas, et l'anticipation de Bill Clinton, First Lady, j'ai trouvé donc un dossier sur le phénomène Viagra, la coque du cul, tout un programme.
Et
c'est tout ça est bien sûr authentique. Hein.
C'est au sommaire.
Voilà,
et qu'est-ce que tu as retenu justement de tous ces articles, dont déjà
ou de ces photos.
Alors déjà, ce que j'ai retenu, c'est qu'on nous prend un peu pour des cons, limite demeurés, en prodiguant des conseils pour lesquels le bon sens aurait dû normalement régler le problème. Alors, dans la page cravate de l'optimum, on apprend que les cravates à motifs animaliers ou à fleurs sont difficiles à assortir, qu'il faut éviter une cravate à motifs sur des chemises ou costumes à motifs, et que pour ceux qui explosent en hauteur ou en largeur, admirez la formulation, il faut taper dans le 152-165 en surmesure, bref, qu'il faut essayer d'éviter de ressembler à Bozo le clown. On n'échappe pas à la page conseils non plus dans le supplément montre de JQ avec des conseils super méga bien. Hein. Les montres, ça coûte cher, alors il vaut mieux pas vendre la maison de campagne pour acheter une montre. Les couleurs, attention, ça va pas avec tout. Hein, voilà, ça c'est super. Trop petit, ça fait montre de fille, et trop grand, ça va vous faire des petits bras. Ouais, super. Et surtout, tu feras attention à pas acheter de contrefaçon sur Internet.
Ah,
bah oui, sinon, si tu vas faire de la concurrence à nos annonceurs, et comme ils vont prendre moins de pubs, bah, forcément, le
magazine cool.
va pas. Voilà. Et puis, alors, une autre page, toujours dans le supplément montre, hein, qui vole des tours, l'adéquation montre-activité. Et là, attention, c'est du lourd. Ne pas avoir une montre trop imposante au bureau. Et oui, c'est la crise.
Ah, on peut pas demander d'augmentation, du coup.
Voilà, et non, c'est pas bon.
D'accord.
Pour le resto chic, une montre ancienne ou une montre flashy pour casser les codes. Ouais, d'accord, ok.
Ah.
J'ai perdu.
Et les conseils ultimes, c'était.
Voilà, et deux conseils ultimes. Mettre sa montre sur sa combinaison de ski pour que ce soit plus facile de lire l'heure. Comment bien péter sa montre, surtout quand on tombe.
Ah, puis c'est très joli.
Oui.
Ce sera très, très, très
oui,
joli.
Oui, mais quand on fait du ski, on ne tombe pas.
Voilà.
Pardon,
parce
oui.
que il s'adresse, tu sais, c'est comme dans le sketch, à
c'est
celui
au
blond.
Au blond.
Qui fait le sketch de Gad Elmaleh.
Voilà.
C'est exactement ça.
Ça, il ne
et puis,
tombe pas, lui.
Un autre conseil, heureusement, franchement, enfin, heureusement qu'ils en ont parlé parce que sinon je n'aurais pas pu l'imaginer. Surtout ne pas oublier sa montre dans le bac plastique après les contrôles de sécurité à l'aéroport.
C'est intéressant. Mais
c'est
pas, ils
ont des montres radioactives ou quoi? Parce que moi on m'a jamais fait retirer ma montre pour.
Si la montre en métal, elle sonne. Hein.
Et toi tu as une montre, Guillaume?
Non, j'en ai pas.
Ah bah, voilà.
J'en ai une mais qui est trop lourde et c'est un des conseils justement,
voilà.
De faire attention.
Finalement, il y a que moi, vous voyez, et moi on me demande pas de la retirer.
Ah oui, pardon, tu.
Voilà,
oui.
Moi je. J'ai une
voilà.
Petite montre.
Alors après, JQ pose aussi des questions existentielles. Est-il honteux de porter un casque de vélo?
Ah oui. Bah, ça dépend si tu comptes t'éclater la tête par terre.
Voilà.
Là, t'as honte ou t'as pas honte?
C'est ça. Peut-on se rincer les dents à l'eau du robinet?
Ouh.
Ou bien encore, par quelle astuce glisse-t-on des mots doux au téléphone en plein espace de travail? Là aussi, des conseils très très utiles. Et puis, bah, Hellman enfonce des portes ouvertes aussi en termes de déco. Pour avoir un intérieur agréable, rangez vos affaires, soignez l'éclairage et jetez votre vieille vaisselle. Voilà, c'est franchement des trucs sympas, mais bon, ça va pas changer la vie. Alors après, il y a d'autres formes qui sont un petit peu plus, toujours sur cet aspect conseil, mais qui sont avec un peu plus de dérision, comme les lettres à Gonzague Duplex dans GQ, où le conseil se fait autour d'un courrier des lecteurs un peu amélioré, et là, ça devient un petit peu moins désagréable. Et puis alors, pour moi, évidemment, il y a quand même un truc, c'est les conseils que je vais retenir, hein, forcément, la chronique beauté de Hellman, qui me donne plein de conseils à mettre en pratique pour débroussailler mes sourcils, rénover mes ongles, tailler mon corps et tondre ma toison. Voilà, un certain nombre. Un certain nombre de travaux. Ah bah, c'est...
Tu vas les mettre en pratique ? Non ? Enfin, je veux pas, moi...
Non, mais on veut voir si c'est intéressant.
Bah oui, alors.
Non, je ne taillerai pas mon corps.
Mince. Bah non, mais faire attention à ses ongles, c'est vrai qu'il n'y a pas que les filles finalement.
Non, mais je vais rénover mes ongles.
Enfin, rénover ses ongles, ça fait un peu bizarre.
Oui, ça fait un peu travaux pour le coup.
Et encore, je vous ai passé briquer sa crinière et passé un coup de teinture. Hein.
Ah, mais ça, c'est le top coat, briquer la crinière. Mais on t'en a déjà parlé, nous.
C'est pour ça que j'ai pas voulu être redondant.
Et alors donc, apparemment, tu vas nous parler de footballeurs qui ne seraient pas si cons que ça.
Et oui, alors le journaliste de Lui explique que la capacité d'analyse de la situation de jeu est une qualité très importante et nécessite une grande intelligence et que comme les footballeurs rentrent très vite dans des centres de formation et pour faire leur formation sportive, ils délaissent le reste de leur enseignement et de leur apprentissage, ce qui ne les rend effectivement pas toujours très très intelligents devant les micros des journalistes.
Oui, et puis alors juste pour dire, les chiens aussi courent après des balles et c'est pas forcément une qualité importante de jeu. Tu vois,
l'analyse de la situation de jeu. C'est monotâche.
Enfin, bon,
tu vois.
Ta chaîne aussi ramasse des babales.
Mais elle n'a pas une situation de jeu. Une analyse de la situation de jeu.
Ça rien. Hein, parce que,
franchement. Alors, elle n'est pas footballeur.
Mais elle est sûrement plus intelligente que certains footballeurs, hein, je pense d'ailleurs. Et d'ailleurs, justement, quelques petits exemples de ces.
Oui, alors voilà, lui propose quand même un florilège des citations les plus cons. Alors je vous en ai gardé que trois, mais il y en avait un petit peu plus. Ronaldo qui dit on a perdu parce qu'on n'a pas gagné.
Ah, oups.
Franck Ribéry, au niveau de la sensation, je n'ai rien ressenti.
De la sensation.
Et oui.
Ah oui. L'association, j'avais.
Non, au niveau de la sensation, j'ai rien ressenti.
D'accord.
Ou Franz Beckenbauer, au foot, il n'y a qu'une seule possibilité, gagner, perdre ou faire match nul.
Voilà.
Bah, chez moi, ça fait trois.
Hein. Et oui, mais t'es pas footballeur.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Mais c'est bien parce qu'après les vertus de l'éducation et de Malala, là, voilà, on se dit que finalement, les vertus de l'éducation, ce serait peut-être pas si mal.
C'est sûr. Bon, alors je suppose aussi que les magazines féminins sont à peu près pareils que les magazines féminins masculins, c'est la même chose. Donc on retrouve des pubs probablement pour des parfums, des produits de beauté.
Oui, alors un petit peu, hein, un petit peu de pubs pour les parfums, pour les produits de beauté un peu moins, mais surtout un ciblage important sur la clientèle masculine et on se dit que bah, voilà, certains annonceurs vont se lâcher là-dedans avec des pubs de voitures et de montres notamment.
Ah, les montres, c'était la thématique.
Je crois qu'dans les 4 magazines, j'ai jamais vu autant de publicité pour ce genre de sujet. C'est voilà. Et puis bah, après les magazines, forcément, comme c'est sans doute de bons annonceurs, vont faire un peu de rédactionnel autour de tout ça. Et donc justement, GQ fait un supplément spécial dont on a déjà parlé autour des montres. Alors pour l'optimum, les montres sont traitées sous un autre angle, c'est l'angle des stars qui portent des montres pour le compte de grands fabricants. Ah oui. Avec le rappeur, je ne sais pas comment on le prononce, Jay-Z, je sais pas.
Jay-Z,
ah oui c'est ça, voilà, je suis un peu...
En English.
Voilà, et la Royal Oak de Audemars Piguet, qui coûte 42 000 euros hein, qu'il a au quotidien sur la main. Leonardo DiCaprio et Etta Goyer pour la Carrera chronographe à 4250. Et puis David Beckham qui est ambassadeur de la marque Breitling.
D'accord.
Alors voilà, pour les voitures, vous avez des pubs nombreuses et variées, hein, plutôt dans des modules de luxe, hein, bien sûr, mais aussi un article qui s'appelle « Effet de manche » dans l'Optimum, avec le comparatif des panneaux de contrôle des boîtes de vitesse automatiques de toutes les voitures les plus design du moment. Alors c'est une photo en pleine page, hein, la photo du manche en pleine page. Si ça ne vous fait pas rêver, mesdames, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
On les a vus, mais bizarrement, ça ne nous a pas du tout fait rêver. Non. Et voilà. Et alors là, vous voyez, ce gentil Guillaume nous avait prévenu. Non, je m'en fous, je balance. Nous avait prévu une transition que ni Anne-Marie ni moi ne voulons faire. Donc on va te laisser lancer ton prochain sujet tout seul.
Et donc on va passer du manche au sexe, puisque c'est quand même le côté phallique est bien là. Et oui, et donc il y a effectivement du sexe dans les magazines, du sexe en lien avec les technologies. Et donc on retrouve la chronique de Maya Mazurette sur les sextos. Et alors pour résumer le sujet des sextos, le nerf de la guerre n'est pas dans le contenu, mais dans le timing. Voilà, il faut c'est pas forcément ce que vous allez dire qui doit être très épicé, mais c'est le moment de le dire, c'est-à-dire que quand vous allez être en rendez-vous avec votre directeur, si vous recevez un sexto, l'effet sera décuplé. Voilà, en tous les cas, le contenu de cette fameuse chronique. Vous avez également le test par Hellman de l'application de rencontre Tinder. Alors, c'est le Grindr hétéro. Alors, Grindr est un service qui existe depuis quelques temps, mais qui est réservé au monde gay, qui est en fait un système de géolocalisation des conquêtes possibles. Donc, en fait, vous avez une application qui vous permet, sur Tinder, sur Grindr, sur un certain nombre d'autres outils qui se sont développés autour de ce système-là, qui vous montre les personnes qui sont les plus proches de vous. Et donc, ça permet de faire des recherches en proximité.
Des personnes comment ? Qui sont célibataires ?
Oui, voilà. C'est-à-dire que, par exemple,
toi... Il faut quand même qu'elles disent...
C'est ça. Toi, tu t'inscris et après, le système met en relation en disant tu es à 150 mètres,
ça fait bizarre quand même,
à 20 km, etc. Oui, oui, c'est une façon de...
On est un peu en limite là de prostitution quand même, parce que
Non, non, mais c'est une question de proximité. C'est-à-dire,
on communique avec
comment tu fais. Par exemple, moi j'ai mon portable.
Voilà, tu crées ton profil. Alors,
on m'a dit qu'il y a un célibataire à 100 mètres. Alors, je fais quoi ? Je vais aller le voir. Je dis, t'es célibataire.
Pas forcément, non. Voilà, c'est une application de discussion. Donc, c'est comme si t'étais sur.
Ah, c'est que je vais discuter avec lui.
Tu vas discuter avec lui.
Alors qu'il est à 100 mètres. Il est à 100 mètres de moi, je peux lui parler.
Quel est l'intérêt de trouver la proximité alors ?
C'est parce que parfois t'es pas à 100 mètres, mais que t'es à 10 km ou à 20 km.
Mais du coup, t'as pas.
C'est
t'as
spécial Lozère.
Si, bien sûr que si.
Attends. Parce que c'est là où tu tombes. Il y aura pas beau.
Voilà, donc il va falloir. Moi, je vous propose, les filles, de tester Tinder.
Oh non, ça va aller. Pas. Non.
Aurélie, non.
Non.
Bon, là, je les ai perdues, les deux. Alors, globalement, dans les pages sexe, on retrouve un article de fond. En trois paragraphes seulement. Sur la taille du pénis, c'est dans Hellman. Alors voilà, la taille est vue différemment, bien sûr, selon les périodes historiques.
Et après, tu le mets dans ta géolocalisation.
Et puis un retour là aussi sur Bill Clinton, qui ne serait pas finalement si bien doté que ça.
Enfin, c'est quand même un baiser.
Oui, mais bon, voilà, comme quoi la taille ne fait pas tout.
On n'a jamais dit qu'il était bien doté. On a juste dit qu'il avait des maîtresses,
s'en servait souvent.
Mais moi, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'il était pas bien doté, c'est tout. Voilà. Et puis,
on n'a pas été vérifié, mais.
C'est ce qui se dit.
Bon.
Et puis donc, dans Hellman, par contre, là, il y a un vrai dossier, cette fois sur le Viagra, la coque du cul, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, avec un article travaillé et plutôt intéressant, qui revient sur les usages récréatifs du Viagra et les addictions qui se développent autour de ce produit, addictions chimiques, mais aussi addictions sur le geste de prendre une pilule avant de rentrer dans une relation sexuelle. Donc un peu compliqué aussi le couplage ecstasy-viagra, c'est-à-dire qui rend à la fois l'ecstasy qui va rendre affectueux, très love, tout ça, et puis le viagra qui va permettre en même temps d'assurer au lit. Alors ça a l'air d'être très très idyllique, mais bon, a priori beaucoup de dangers médicaux, c'est pas très 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 bon pour la santé tout
et
ça.
Et après c'est comme toutes les drogues aussi, c'est sûr que...
C'est sûr.
Quand c'est une addiction, c'est mauvais pour la santé.
Voilà, retenez bien les petits conseils. les petits conseils d'Anne-Marie. Là, on est en train de se perdre, je vous dis même pas. Les deux filles sont impossibles de me poser la prochaine question. Alors, je vais y aller tout seul, parce que là, je les ai perdus totalement. Et en vous disant que effectivement dans ces magazines c'est aussi un rassemblement de tendances, et avec JQ qui traite le mieux, je trouve, cette partie tendance actualité, avec des pages qui s'intitulent Buzz, Et ce qui est intéressant dans ce magazine, c'est que la mise en page est travaillée avec des infographies, des photos, des chiffres. Et c'est finalement plus plaisant à lire qu'un article un peu chiant avec beaucoup de textes sur, sur quelles sont les tendances du moment. Alors, je vous ai déniché quand même quelques tendances que je voulais vous partager aujourd'hui. Hein. Côté objet, on pourra marquer un petit coup de cœur dans l'Optimum pour le designer Ora Ito, qui, après avoir designé des canapés pour Dunlopilo, et oui, j'en ai un comme ça à la maison, se met aux coques de smartphone et de tablette. Et bon, en plus, il est beau gosse, hein, je pense que ça, il vous plairait, il faudrait que je vous le retrouve. Ah bah voilà. Côté habitat de vacances, y a une très belle photo dans lui, d'une matchbox à Singapour. Alors, ça propose, c'est en gros une auberge de jeunesse qui propose des alvéoles, genre Académie des Neufs. Hein, je ne sais pas si, vous voyez. Et cette déco, comme dirait Valérie Damido. Mais bon, vous dormez quand même 18 dans le même, à 18 dans le même volume. Donc, pensez quand même au bout de caisse.
Et au déo.
Et au déo aussi, effectivement. Ça risque de sentir un peu les pieds. Dans la tendance cuisine, cette fois, c'est dans Hellman avec les 10 nouveaux snobismes. Alors, parmi lesquels, les pickles, les nouveaux cornichons. Le resto itinérant avec le développement des food trucks. Le panini chic, c'est le nouveau hot dog. La frite, c'est la nouvelle pâte. Et le couteau, la nouvelle Saint-Jacques.
Ok.
Voilà, voilà.
Bon. Sans commentaire.
Voilà, sans commentaire. Et je ne pourrais pas terminer sans vous révéler une tendance forte, ce qui va révolutionner la rentrée après janvier. C'est dans Hellman et c'est le retour...
Du bandana,
effectivement. Donc dites à votre mère d'arrêter tout de suite de se servir de vos vieux bandanas pour faire la poussière, parce qu'en 2014, le bandana devient la nouvelle cravate. Donc je voulais, chers auditeurs, que vous soyez bien au courant et que vous puissiez recycler vos bandanas.
Mais pas ceux dont elle s'est servie pour faire la poussière, les autres, des nouveaux. Hein.
C'est ça.
Alors le bilan de cette lecture.
Alors, le bilan de la lecture, bon, je dirais que globalement, ce sont des magazines assez esthétiques, qui sont quand même bien travaillés, qui sont vraiment, qui sont chiadés en termes de mise en page, si ce n'est effectivement cette première page un peu sobre de Mann, mais bon, de Hellman, mais bon.
Oui, on n'est pas fan de la couverture.
Mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, effectivement, des éléments assez graphiques, assez sympas là-dessus. Alors certains, par leur mise en page, permettent de rentrer plus facilement dans les articles, avec des écritures plus courtes, avec des accroches, avec des façons de faire en sorte que ce soit un peu plus facile à lire. Et je trouve que c'est un effort intéressant. Pour moi, dans ce style de magazine, il n'y a rien de plus chiant qu'un texte écrit en tout petit, avec un beau titre en haut, mais très long et qui finalement pour dire des choses pas forcément très, très intéressantes. Bon après évidemment j'ai un peu sorti le bazooka aujourd'hui en mettant en exergue dans cette chronique plutôt toujours quelques critiques mais bon ce sont quand même des magazines plutôt instructifs et bien en face quand même avec les attentes de l'homme moderne aujourd'hui
faut arrêter quand tu lis ce genre de magazine te détendre
voilà. bien sûr
donc évidemment qu'il y a aussi des sujets un peu futiles avec des conseils un peu nazes mais ça fait du bien voilà
tout à fait. Alors après, on peut quand même regretter deux choses. D'abord, un regard un peu condescendant dans la façon d'exprimer des conseils ou des avis. C'est un peu gênant parfois. Et puis alors, le côté parisien et mondain, très affirmé. Alors je trouve par exemple totalement inadmissible que dans les pages de bonnes adresses, notamment pour les sorties ou les restos, que ce soit uniquement des sorties parisiennes quoi. Enfin voilà, il y a pas que Paris dans la vie
je retrouve aussi dans les magazines féminins. Ah, c'est clair que
de là à proposer effectivement peut-être des adresses en Lozère, il y a un pas que je ne franchirais pas, mais je pense qu'il y a d'autres villes en France qui sont au top de la tendance aussi et qui peuvent avoir des choses très sympas à proposer.
Dans Elle par exemple, à la fin le cahier ici est Languedoc-Roussillon et du coup tu as des adresses dans le coin un peu élargi quoi, on va dire Montpellier jusqu'à Perpignan mais bon.
Je trouve que c'est un peu dommage.
Je regarde toujours s'il y a la Lozère et en général, il y a quand même toujours une ou deux adresses de Lozère.
Mais voilà, je trouve que c'est ça qui manque un peu dans ces magazines là qui étaient un peu parisiano-centrés.
Alors et sur les quatre, tu vas continuer d'en lire un ?
Alors, j'ai pas du tout accroché déjà à lui.
Ah. Hein,
je trouve que le positionnement femme à poil pour acheter les mecs, c'est pas forcément très très sain. Et puis bizarrement, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Alors lui je vais y arriver, lui a pourtant de belles plumes, hein, avec des chroniqueurs et quelques signatures dans ce magazine, qui est, en plus écrivent des choses intelligentes, sans en faire non plus 300 pages et dans un ton plutôt sympa. Et puis un autre défaut dans lui, pour moi, c'est le directeur de la rédaction, hein, Frédéric Becbédé, qui est un peu le lui du magazine aussi. C'est-à-dire qu'il interviewe Thomas Lanzmann. Hein, bon, c'est
lui-même. C'est
lui-même, hein, voilà. Donc Thomas Lanzmann, producteur de cinéma. Et sur les 5 photos qui illustrent l'interview, il apparaît sur 2 photos. Enfin, je trouve que c'est un peu dérangeant. Enfin,
on n'est jamais si bien servi que par soi-même.
C'est clair, mais voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit, forcément le truc qu'on ait envie de. Enfin, oui. Voilà, voilà. Après, bah, l'Optimum et GQ sont plutôt des bons magazines, mais sans doute un peu trop mode pour moi. Et donc, bah, vous l'avez compris, hein, j'ai plutôt apprécié Hellman et je pense que je vais suivre cette publication, car elle pourra bien devenir une source d'inspiration pour de futures chroniques. Et bon, je trouve que finalement le positionnement est pas mal du tout. Et peut-être juste très 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 vite, je vais vous lire l'édito de Hellman pour vous donner un peu l'état d'esprit dans lequel le rédacteur en chef présente ce nouveau magazine. Il dit nous sommes prêts à avoir le coup de foudre, à lui faire une place dans notre lit, à ne pas laisser tomber au premier désaccord, à l'aimer encore quand ce sera devenu une habitude, à dire que ce n'était à dire que ce sera pour la vie. Nous sommes prêts à épouser un magazine masculin, un journal qui ne se demande pas s'il a perdu le bras de fer avec les femmes, qui ne se justifie pas avec des abdos au carré, des grosses bagnoles ou des petits culs. Bon programme, mais alibi inutile. Hellman est né, c'est un organe décomplexé, celle d'un garçon qui assume son style, qui dépasse son genre, qui va bien et qui ne s'interdit rien, et surtout pas d'avoir du goût. L'objectif, Hellman, c'est même l'inverse, créer une communauté de goût, exit métrosexuel ou Uber, ce sont aujourd'hui les rétrosexuels. Hellman, c'est vous, c'est l'histoire d'un mec, alors qui est-il? Il n'en sait rien, il s'en fout, on voudrait juste qu'il ait la curiosité d'être léger, l'intelligence de ne pas être grave. Ici, l'homme est ce qu'il fait, il cherche du sexe sur une appli, il essaye le costume Bermuda, il est fou d'une actrice iranienne, il se demande si Valls sera président, il ose le sexe récréatif, il a l'insolence de faire la fête, il sait que Sémi est devenu un plan à trois, un couple et un smartphone, il ira voir le film de Guillaume Gallienne, il entre en cuisine comme en religion, il écoute du rap américain, il découvre un roman colombien, l'homme est tout ça à la fois, et c'est pourquoi il lui fallait Hellman. Voilà.
Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour clôturer tout ça?
Eh ben, je vais vous proposer effectivement d'écouter Adrienne Pauly.
Voilà.
Oui, Adrienne Pauly, je veux un mec. Et voilà, j'espère que ce que je vous ai raconté vous a plu. Et en tous les cas, messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée. Ça peut être pas mal.
Non, je veux pas me lever, m'habiller, je veux un mec, oui c'est bête, m'allonger pour la vie, ça m'embête, je veux un mec. Non, je veux pas un ciné, rigoler, je veux un mec, ouais je m'entête, mes beaux airs, ça m'inquiète, je veux un mec. J'en ai rien à foutre, tes amis, j'en ai rien à foutre. Ton boulot et ta gym, ton mal de ta clim. Ton âme, j'en ai rien à foutre. Ta femme, j'en ai rien à foutre. Ton psy et tes horreurs. Écoute-moi, oui, je vais pas me calmer. Oui, je vais continuer. Oublie les fleurs, je serai pas l'heure. Attends-moi, des illusions, j'en ai pas loin. Mais si tu me fais bien l'amour, je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs. Non, je veux pas,
non, je veux pas
oublier, travailler. Je veux un mec,
je veux un mec,
je veux un mec,
je veux un mec.
Ouais, je me plains, ouais, c'est bête, ouais, ça craint. Je veux un mec,
je veux un mec.
Viens le mec,
je veux un mec.
Ta maman qui est partie, ton papa qui est parti, ton ex qui te hante, ta moto qui te plante. J'en ai rien à foutre, de la pluie j'en ai rien à foutre. Je veux un mec, pas du vent. Écoute-moi, non je vais pas m'en prendre en main. Me calmer, prendre un petit bain. Oui je vais rester dans mon coin. Regarde-moi, ton F5 j'en ai rien à foutre. Ton
t'élèves, si t'en es un, si t'es un mec, réponds-moi. Ton chapeau, j'en ai rien à foutre. Ton blouson, j'en ai rien à foutre. Tes vêtements, tu peux te les foutre. Sur le canapé, sur le canapé ou ailleurs. Enlève les vitres, j'ai peur. Sur le canapé ou ailleurs. Viens, des illusions, j'en ai pas lourd. Mais à quoi bon faire des discours? Je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs.
Alors voilà, c'est un peu bizarre, on commence un peu bizarrement cette troisième partie d'Actuel et lui. Normalement, on va tout vous dire, il y avait une virgule qui devait partir.
Mais tu l'as oublié.
Et voilà. J'ai oublié. Et voilà, et donc on a commencé avec le premier extrait.
Mais c'est pas grave.
Mais ça tombe bien parce qu'on va parler de musique et il y a plein de petits extraits qu'on va entendre. Et celui-là, c'était, bah, finalement, c'était pour nous dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais
Alors, c'était mon premier coup de cœur en voiture pour ma machine à remonter le temps. Cette chronique, je voulais vous parler aujourd'hui de mes coups de cœur de la rentrée musicale. Et ce petit extrait, c'était Belle, en fait. Belle, c'est une chanson de l'album Fugitive du groupe Moriarty. Alors, le groupe Moriarty, c'était cette voix que vous avez entendue, là, de la voix de la chanteuse Rosemary. On entend cette chanteuse entourée de ses musiciens, avec un seul micro pour tous, un peu à l'ancienne. C'est le placement, d'ailleurs, des musiciens qui fait la balance. Comme dans les années 30, on met le batteur tout au fond, la chanteuse devant, le pianiste sur le côté. Et ça donne ce son, reconnaissable entre mille. Cette voix profonde qui nous emmène, hein, comme dans une machine à remonter le temps, justement. Elle place le son dans sa gorge et tire le sommet de sa tête vers le haut, un peu une posture de mezzo-soprane. Et elle allume ensuite les résonateurs de son visage, ce côté un peu nasillard là, avec les pommettes, le nez, le front. Et elle déploie sa voix dans un souffle continu. Et hop, on est un peu attrapé au lasso, en quelque sorte.
Alors, au lasso, car on entend des sons qui sonnent musique américaine, apparemment.
Ah oui, je trouve, non? Vous avez pas trouvé que cet extrait faisait vraiment... on retrouve en fait toute la fascination des Moriarty pour le blues du Bayou. Et tant qu'à s'inspirer, autant s'inspirer, partir directement des origines. Et c'est là qu'est la matrice, toutes les musiques américaines, du folk au jazz, en passant par la country. Après s'en être longtemps inspiré, ben, ils se sont sentis prêts à rendre hommage aux anciens, les maîtres du songwriting, Woody Guthrie, Hank Adams, William McTeal. Moriarty nous raconte des histoires un peu à la manière des frères Cohen. Moi, ça m'a fait penser à ces films. Des fugitifs, des losers magnifiques et touchants, des amants assassins, des bandits au grand cœur, des cow-boys romantiques, des femmes abandonnées et même jusqu'aux marchands de bonbons pervers qu'on retrouve à un moment.
Et alors, le deuxième album que tu nous présentes est lui aussi un peu magique.
Oui, alors je vais vous faire écouter ça, mais effectivement, je vais vous parler d'Avantine. C'est le titre éponyme, en fait, du deuxième et somptueux album de la chanteuse danoise qui s'appelle Agnès Obel et qui est sorti au mois de septembre. There is a grow, there is a blood, deep in the snow. Breaking your heart, one step behind, a thousand. Alors, on a découvert Agnès Obel avec son premier album philharmonique en 2010. Deux passages en 2010 et 2011 au Festival des Un Rock. C'est assez envoûtant, je trouve, ces sonorités. La musique est un flot qui avance, qui attrape les musiciens sur son passage. On entre ici dans les brumes du Nord, des pays de lutin, de froid, de magie. Et Agnès Obel semble une magicienne, une enchanteresse qui nous envoûte par sa voix et sa musique. Sa voix, c'est un peu comme une onde, d'une rare puissance, d'une réelle douceur. Elle est palpable, pure, elle se mêle au piano avec une rare délicatesse, une élégante sensualité et une petite mélodie que moi je trouve toujours à tomber. Il faut donc prêter attention au dialogue en fait, entre le piano, les cordes, qui sont parfois utilisées en percussion et non pas grattées, et cette voix un peu séraphique en fait, qui fonctionne comme un instrument au regard... en regard des autres instruments, finalement.
Et donc, elle travaille sa voix et son piano comme deux instruments distincts. Il y avait une grande partie acoustique dans cet extrait.
Oui, en fait, Agnès Obel travaille principalement seule. Elle produit elle-même ses travaux afin de limiter le plus possible les interventions extérieures. Et son seul souci, justement, est parfois l'écriture des textes, toujours en anglais, hein, vous avez entendu. Parfois, elle n'en trouve pas. Et bien, elle s'en passe, en fait. On a des miniatures instrumentales dans son album, comme pour Philharmonique, d'ailleurs, où là, en fait, la musique est venue avant les mots et les mots semblent ne pas être venus. Donc, on n'a plus que de la musique.
Elle n'est pas très connue, enfin, en tout cas en France on a l'impression de ne pas trop la connaître, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, sur Agnès Obel?
En fait on ne sait pas grand chose d'elle, donc elle s'appelle Agnès Obel, Agnès Caroline Taroup Obel même, elle va avoir 33 ans, elle n'est pas allemande bien qu'elle vive à Berlin, mais danoise de Copenhague. Elle vit outre-Rhin, donc, où là, elle n'est pas tout à fait inconnue, puisqu'une de ses chansons, Le minéral est entré dans Just So, a servi en 2009 à l'illustration d'une campagne de pub, de com, de Deutsche Telekom. Et comme je m'étais plantée un peu sur mes pronostics pour les Nobel, je me suis
juste
dit...
un peu.
Ouais, je me suis dit, allez,
sur
cette
là
petite
aussi.
Blonde-là, je vais... Moi, j'avais jamais dit qu'il allait mourir. Je veux qu'on rétablisse la vérité. C'est Ludo.
On réécoutera les bandes.
Voilà, qui n'arrêtait pas de m'embêter avec ça, alors qu'il n'est pas mort du tout. Donc, cette petite blonde-là, Agnès Obel, je pense que vous en entendrez parler.
Bien, alors, troisième coup de cœur pour un homme, cette fois-ci.
Oui, et un petit quiz musical pour vous deux et nos auditeurs. Alors, quel est le point commun entre ces trois extraits?
Si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier, je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir, ou s'il faut encore moins, car pour un qui s'en va, mais quel est donc ce vent qui me regarde et qui me glace, et notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on?
Voilà, ça c'était le premier donc.
C'était Tarmac, oui.
On va écouter un
deuxième
extrait. Deuxième
extrait.
Il y a la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi.
Voilà, le deuxième, Vanessa Paradis.
C'est ça, il y a.
Et le troisième?
Le troisième.
Des amours, des questions me reviennent. As-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil et fleurs.
Alors, c'est quoi ce point commun?
Alors, ce point commun, c'est Gaëtan Roussel, qui est l'auteur, chanteur pour deux des extraits de... Donc le dernier extrait, c'était « Dis-moi encore que tu m'aimes », donc de son album « Ginger ». Donc c'est aussi un phrasé, je vais vous en parler un peu plus longuement, une sonorité, je trouve que malgré le fait qu'on ait différents interprètes, on retrouve toujours un peu le même type de sonorité. Donc pourquoi je vous parle de Gaëtan Roussel? Eh bien parce qu'il sort un nouvel album. Effectivement, on est loin de Louzatak ou de Tarmac, des compositions qu'il a faites pour Vanessa Paradis, Alain Bachung ou des films comme Louise Michel ou Camille Redouble. Donc Gaëtan Roussel avait sorti en 2010 son premier album solo, au nom stimulant de Ginger, et séduit un auditoire, 200 000 albums vendus, 3 victoires de la musique. Et 3 ans plus tard, il vient donc de réitérer avec Orpailleur, donc pour mon plus grand plaisir.
Alors, peut-être que pendant 3 ans, il n'est pas resté sans se tourner les pouces. Il y a, tu l'as dit, composé des bandes originales pour des films, voilà. Ce qui lui a valu une nomination au César en 2013. Il a produit également l'album Ivre et débutant du groupe français Deportivo.
Et oui, et une petite anecdote justement spécialement pour toi Guillaume, il a également signé le générique du nouveau programme de France Télévisions, je suis sûre que tu vas bien finir par nous en parler, Alcaline.
Ouais.
Donc avec sa déclinaison qui remplace donc Taratata, etc.
Qui remplace Taratata, c'est d'aujourd'hui.
Voilà. Voilà.
Donc et cet album, tu l'as trouvé comment ?
Alors, Gaëtan Roussel nous racontait dans l'Express ne pas vouloir se répéter. Je voulais pas faire un Ginger bis et il semble avoir réussi son pari. Même si ce nouvel album compte 11 titres comme Ginger, se termine par un titre en acoustique comme Ginger, les deux albums ne se ressemblent pas pour autant. C'est un peu une œuvre d'artisan, de chercheur de son. Orpailleur bouillonne en fait de thématiques un peu différentes. Il annonce la couleur, or forcément, et pourtant, dès son premier titre, la simplicité, il remet les choses en place. Je vais le laisser vous en parler, ce sera aussi bien.
C'est un paradis escarpé, un oiseau que tout effraie. C'est rien mais c'est si compliqué.
La simplicité,
ça paraît toujours avoir existé. Combien de feuilles, de cahiers, de ratures pour s'en approcher. C'est rien mais c'est si compliqué.
Voilà. Alors avant ça, vous vous souvenez effectivement, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps avec Louise Attaque. En 2008 pour Vanessa Paradis, il y a là les fissures, fermer les serrures, comme envoler le cerf-volant. On a toujours cette identité sonore qui, pour moi, est vraiment importante pour un chanteur. C'est avoir une voix reconnaissable entre mille. Il y a chez Gaëtan Roussel comme un accent de l'enfance au service de textes érudits, avec un peu une maladresse touchante d'un rocker sensible, une certaine naïveté de petit garçon auquel on rajoute en fait l'art de la stance, cette répétition d'une phrase courte qui tourne, une économie de moyens, un maximum d'effets. Les sons semblent mixés à la maison en toute simplicité et la production pourtant très sophistiquée est évidente. Et l'évidence, c'est comme la simplicité, c'est compliqué. Alors mon choix musical sur cet album, quand même, c'est de vous faire écouter une chanson que vous avez sans doute entendue, puisqu'on l'entend depuis cet été, c'est Éolienne.
Laissons les billes alizées au voilier, au petit drapeau de plage coloré. Mistral, chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets de coques, les jolies gambettes faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Simple va-et-vient, odyssée, traversée le long des falaises, sillonner. Vouloir les avant, les que sais-je, les après. Souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons la bise caresser les mollets de coques, les jolies gambettes faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne
que nos existences contiennent s'envoler, laissant tout le vent enfermé. Laissant tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader.
Cette fois-ci, il y avait bien la virgule musicale. Et puis, c'est la fin de cette émission. C'était une émission où on a bien ri. J'espère que vous avez...
Tout, il y a eu de l'émotion, du rire.
Oui, effectivement, aussi, de l'émotion. Et puis, un petit peu de choses légères et des choses
moins légères.
Plus fortes. Et donc, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Alors, peut-être qu'il y aura des Friends avec nous.
On verra si on en trouve.
Ouais.
On ouvre la porte. Je passe une petite annonce si vous êtes intéressés.
S'ils sont gentils.
Voilà.
Voilà, donc on vous tiendra au courant, bien sûr, de tout ça. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée sur 48FM. Et à très bientôt.
À très vite.
À bientôt.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu. Actu. Elle. Et lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.